Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Les grandes routes en Inde, et surtout celles qui partent de Delhi, ont beaucoup pour elles. Quelle que soit la destination choisie, on a 1000, 2000 milles devant soi, des savanes mauves, des vols de vautours tournant dans un ciel cannelle, des villages verts où gîtent des dieux de glaise couverts de minium frais et de papier d'argent, des villes croulantes et tarabiscotées, des légions de pieds nus battant la poussière, et une infinité de rencontres et de regards qui croisent le vôtre jusqu'à la satiété la plus complète. Sur la boue durcie, le long des arnières, à travers les flaques laissées par la mousson, on se pousse à petite allure. Un mois passe comme un rien. Parfois, on consulte la carte pour savoir jusqu'où la dérive vous a porté. On y voit de grands deltas vert pâle, des plissements bruns, des hauts plateaux qui vous font de l'œil, qui aiguisent l'appétit et la curiosité. On s'allume un petit cigare en se disant « j'y serai dans un mois ». À mesure qu'on chemine, on s'allège. Le vieux fardeau de prétention et d'imposture dans lequel on avait vécu se dilue et nous quitte sans crier gare. Qui a connu ces routes, ce rythme et cette vie ne guérira jamais. C'est ainsi que le très merveilleux Nicolas Bouvier raconte son arrivée en Inde dans l'usage du monde dans les années 50, 20 ans après Henri Michaux et son Barbare en Asie, qui consacre aussi de très belles pages à ce qu'il nomme le pays du rose, des maisons roses, des saris bordés de rose, du beurre liquide, des mets doucereux et fades, froids et écœurants. Des textes fondateurs bien avant les années 70, durant lesquels l'Inde va devenir pour plusieurs décennies la destination des rêveurs et des hippies, des poètes et des Beatles, des mangeurs d'opium et des fumeurs de hash. C'est dans cette Inde-là, celle des amoureux de voyages en tout genre, du yoga au Mahabharata, que se passe l'histoire que nous racontons aujourd'hui. Elle ne dit pas si les parents d'Alice qui la racontent ont lu Bouvier, Michaux ou Charles Duchaussois, mais elle se passe bien dans ce pays-là, spirituel, odorant et rose. Et elle est proposée par Stéphanie Thomas, tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Sophie Legoubin-Copeil, j'ai 49 ans, je suis née à Paris dans le 13e. On habitait dans le 9e, une petite vie assez chouette. Et tous les ans, on partait en voyage. Mon père avait décidé que lui, il n'avait jamais voyagé. Donc, on voyageait. Et la première année, je crois que j'avais un an, on est parti au Maroc. Et puis, après, entre 1975 et 1987, ils ont fait 22 voyages. Et mon frère et moi... avec eux, une dizaine de voyages. Je pense qu'on partait au moins une fois par an. Souvent, on fêtait Noël. Ma mère détestait Noël en France. Donc, on fêtait Noël souvent en Inde, tous les quatre. Et ils allaient chercher des minéraux. Ils faisaient leur deux métiers. Plus, tous les week-ends, on faisait des bourses de minéraux. C'était assez chouette. On partait tout le temps, en fait. On était hyper mobiles. On était tout le temps par Mons et par Vaux. Mes parents bossaient énormément. Mais on avait une stabilité affective. Enfin, c'était vraiment chouette. Et en 87, mes parents ont décidé de partir, mais pour aller faire un voyage, pour retourner au pays qu'ils adoraient, et faire un voyage plus touristique. Donc on a décidé de retourner voir nos amis indiens, chez qui mon père achetait des minéraux à Bombay, et puis de descendre dans le sud de l'Inde. Et on est parti, donc on a atterri à Bombay, on a pris un avion, je crois, pour le sud, pour Trivandrum, on est remonté jusqu'à Cochin, on a traversé en train, on a fait un voyage qu'on faisait rarement dans des petits hôtels, c'était très chouette. Mon frère avait 18 ans, j'en avais 15, et c'était la famille s'entendait bien. Je me souviens que le 31 décembre, j'étais pas contente parce qu'on faisait jamais le Nouvel An, on faisait jamais ce que les familles normales faisaient. Donc ça, je me souviens de cette scène, mais c'était une chouette soirée. On était à côté à Madras. Et du coup, le lendemain, ma mère détestait la plage. Nous, on voulait aller se baigner absolument. On était dans un hôtel assez moche à Madras. Et on a décidé d'aller, ma mère a cherché dans son guide, d'aller à une heure de l'hôtel pour se baigner sur une plage qui disait très belle. Les plages sont pas très belles en Inde. C'est pas très beau, la mer est dangereuse. Donc elle a choisi un très bel hôtel, très chic, où la plage était surveillée, où on pouvait déjeuner pour aller passer le 1er janvier là-bas. Et on a été se baigner avec mon frère, on était hyper impatients. Et mon père est venu avec nous. Et puis on commençait à se baigner, mon père a aperçu... On a entendu des cris en fait, et on voyait de loin quelqu'un qui appelait, mais c'était pas très clair. Il était, je sais pas, 11h, midi. Il y avait pas mal de gens sur la plage, de gens riches qui étaient à l'hôtel, je pense. Et puis vraiment une personne qui continuait d'appeler. Et en fait, mon père s'est tourné vers mon frère et moi et nous a dit, en fait, je crois que quelqu'un a un problème, il faut y aller. Mon frère, à l'époque, il était 18 ans, il faisait beaucoup de hockey sur glace, il était très costaud, très beau, très fort, tout ça. Et mon père lui a dit, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, moi, je ne suis pas sûre d'être capable, mais toi, tu n'en es pas capable. Tu vas chercher des secours. Et il s'est tourné vers mon frère et il lui a dit, toi, t'en es capable, tu viens avec moi. Et ils sont partis dans l'eau. Et moi, je suis partie vers la réception. C'était donc un peu comme ces hôtels qui sont près de la plage. J'ai couru, j'ai appelé. Personne ne comprenait rien. Personne ne réagissait. Et j'ai fini par comprendre qu'on ne m'aiderait pas. Tous les gens sur la plage restaient statiques. Et en fait, j'ai vu... que un petit peu plus loin, il y avait un village de pêcheurs. J'ai couru vers ce village de pêcheurs. Et là, étonnamment, alors que personne ne parlait ni anglais, ni quoi que ce soit, il y a un pêcheur qui a tout de suite compris que j'étais complètement en panique, qui m'a suivi, qui est venu avec moi, à qui j'ai montré et qui est parti. Et là, ce pêcheur, il a ramené assez rapidement la femme, qui en fait était en train de se noyer. Et il l'a ramenée sur la plage. Tous les gens se sont... mis autour d'elle, et moi en fait je me suis retournée, j'ai vu mon frère qui arrivait très près de l'eau, et j'ai pas vu mon père, et du coup j'ai été rechercher le pêcheur en lui disant enfin en lui disant qu'il y avait encore quelqu'un, etc. Et le pêcheur est reparti et il a ramené assez rapidement mon père. C'était très étonnant, je me souviens de m'être dit il va jamais y arriver, parce que le pêcheur devait faire 1m60, extrêmement mince, enfin comme les Indiens, très... Et il a ramené mon père qui était quand même un homme pas très grand, mais un petit peu dans bon point, très bon vivant, etc. Et il l'a ramené. Bon, là, c'était assez horrible. Entre-temps, ma mère s'était réveillée. Et mon frère, a essayé de le réanimer avec le pêcheur. Enfin, voilà. Ma mère, elle était totalement en état de sidération. Et personne n'est venu vers nous. Enfin bref, là, tout s'est arrêté. Donc, mon père était mort. Ils ont appelé une ambulance. La femme, elle est partie assez vite, mais elle était arrivée quand même plus tôt. Elle semblait totalement morte aussi. Hein. Et mon père aussi. Il y avait cette mousse quoi, qui sortait de sa bouche, de son nez. C'était effrayant. Donc, on est dans une ambiance. Mon père avait 41 ans, donc c'est quand même jeune. Hein. Et on est arrivé à l'hôpital. Et là, s'est enchaîné toutes les démarches à faire. On ne pouvait pas ramener... C'est-à-dire que mon père adorait l'Inde, ça, c'était clair. Et il nous avait toujours dit, d'ailleurs, il nous l'avait dit quelques jours plus tôt, que lui, il voulait être incinéré. Donc ma mère a dit, on va faire incinérer votre père. Et puis, en fait, on a appris par Mr. Pioche, Monsieur Pioche, le consul, attaché consulat de l'époque, qui nous a dit, ah, vous ne pouvez absolument pas faire incinérer, il va falloir qu'il y ait autopsie, et vous devez ramener le corps en France. C'est obligatoire. Et puis, on nous a dit assez vite qu'il n'y avait pas de morgue, qu'il allait falloir que nous, on trimballe le corps de mon père. Donc, on s'est retrouvés sur le bord du trottoir avec mon père dans un drap. Et tous les Indiens venaient nous voir. Les Indiens, s'il n'y a pas plus curieux. Hein, donc, ils venaient nous voir. Ils nous disaient, c'est qui? Alors, on disait, bah, c'est notre père. Mon frère expliquait. Et il nous disait, mais c'est génial, c'est un héros, il a sauvé quelqu'un, etc. Et en fait, je me disais, mais ils ont raison, c'est quand même génial, mon père, il a sauvé quelqu'un. Sauf que je savais pas si cette femme, elle était vivante ou pas, qui était cette femme, etc. Mais je me disais, il y est allé, quoi. Donc bref, on s'est trimballé le corps de mon père, et puis on l'a déposé à l'autopsie. Et donc après a commencé tout un délire de voilà, il a fallu qu'on achète une place de cimetière en France pour pouvoir le ramener, pour le faire incinérer. C'était surréaliste, mais c'était la loi. Donc là, on a été dans un tout petit recoin à Madras, derrière la cathédrale, où il y avait un constructeur de cercueils. Et donc, on est arrivé dans cette petite impasse. Il n'avait pas fermé le cercueil. Il voulait absolument qu'on soit là. Il finissait. C'était le soir tard. Et j'ai vu mon père avec cette couture terrible, du menton jusqu'au kiki, là, c'était assez effroyable. Il était toujours en maillot de bain. Ça, je trouvais ça chouette qu'on ne l'ait pas habillé, en fait. Et il nous a incité, il nous a dit, il faut mettre des fleurs, il faut mettre des choses. Donc, on a mis toutes les fleurs. Ma mère nous a dit, on va mettre les objets qu'il aimait bien. Mon père, il m'avait acheté une petite pochette brodée. J'ai mis la pochette qu'il m'avait achetée. On a mis, bref, plein de détails qu'on aimait bien. Voilà, bon après, on ferme le cercueil, on arrive à l'aéroport. Enfin, tout ça, bon, voilà, c'était marrant, on avait ça comme une valise avec nous. Hein. À sa taille, il n'était pas grand, mon père, il faisait 1m70. Et le truc qui est terrible, c'est qu'on est arrivé à l'aéroport. Et qui était à l'aéroport? La femme que mon père, mon frère avait sauvée, était là avec son mari, et elle reprenait le même avion que nous, de Madras à Bombay. Ma mère l'a reconnue, et... moi, je me souvenais que ma mère avait demandé à ne pas être assise à côté d'elle dans l'avion. Voilà. C'est tout ce dont je me souvenais. Et en fait, elle a été la voir et elle l'a prise dans ses bras. Et voilà. Et puis là, commence une période vraiment pas très drôle pendant 2-3 ans avec ma mère qui déprime, qui me prépare à son départ et qui se suicide 3 ans après. Jusqu'en j'ai mis 18 ans, pour pas que j'ai de tuteur légal et pour que je sois libre. Et elle m'a vraiment emmenée dans cette liberté. C'est-à-dire que j'ai arrêté l'école à 17 ans, elle m'a dit « Ok, pas de problème, tu travailles. » Donc j'ai travaillé, j'étais assistante photographe, j'ai travaillé à la radio. Enfin, j'ai fait plein de choses différentes. Elle m'a accompagnée dans cette autonomie. Bref, et elle s'est suicidée de manière très chic. Ça a été déclaré mort légal, elle était dans un relais château, elle a pris des cachets dans une soupe à la tomate et elle s'est noyée dans son bain. Et moi, je l'en remercie énormément, je l'aurais retrouvée pendue dans ma cuisine, je pense que j'aurais sauté du cinquième étage, quoi. Là, ça a été un truc où, pour moi, ça a été très important, la manière dont ça s'est passé. Voilà, je pense que mon frère, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a beaucoup bu et il a été beaucoup en hôpital psychiatrique. Et ça a été hyper dur. J'avais pas beaucoup d'amis. Heureusement, j'ai rencontré Edouard, que je connaissais déjà juste après le suicide de ma mère, et on s'est mis ensemble il y a 30 ans. Et ça, bon, bah voilà, après, j'étais aussi d'une liberté incroyable. Ma mère m'avait dit. Enfin, elle m'avait préparé à ce truc-là et j'en ai profité. On a pris le chemin du voyage. Edouard n'avait jamais voyagé. Déjà, on est parti. On voulait aller au Cameroun en voiture. On a acheté une voiture, une D'Angel, une 504 4x4. Un truc incroyable, le truc des pompiers en Corse. C'était en 1991, je crois. Et on s'est retrouvés coincés en Algérie en état d'urgence. Et on a passé 2 mois en Algérie, 1 mois au Maroc. Bref, on est parti presque 6 mois, tous les deux. Et puis, on est revenu, on n'a plus envie de vivre à Paris. On est parti habiter dans la Manche, dans une petite maison. Et moi, j'ai dit, bah ça va, on a 21 ans, 22 ans, on n'a qu'à faire un bébé. Et on a préparé un grand voyage. J'étais enceinte de Gaspard, j'ai accouché. Et quand il a eu 17 mois, on est parti 2 ans en voyage. Afrique, Madagascar et Inde. Et voilà, et puis après, on a eu un deuxième enfant. On a eu un enfant qui est mort quand il avait quelques mois. C'est le pire des trucs qui me soit arrivé. Et du coup, là, c'est devenu assez compliqué pour moi, la vie. Parce que pas de papa et maman pour m'aider, des beaux-parents pas très aidants. Et me retrouver avec la personne que j'adore, avec le même problème, à se retrouver tous les matins en se disant, en fait, ce serait plus simple si on n'était pas ensemble, puisqu'on a le même problème. Et puis, on s'est bien battus, on s'est bien marrés. Et on a refaire un enfant. On a eu Elvire, donc en 2003. Et en fait, c'est elle qui m'a dit un jour « Mais cette femme qui a été sauvée, elle est devenue quoi ?» Cette histoire, j'en parlais pas beaucoup de cette histoire. Voilà, j'avais cette histoire, mais c'est tout. Je me suis dit « Mais on peut la transformer en l'histoire qu'elle est, c'est-à-dire en histoire quand même assez belle. C'est-à-dire que oui, mon père est mort, mais enfin, il a quand même sauvé une femme. Elle a fait quelque chose de sa vie, c'est évident. Donc lui, c'était mes parents, donc c'est dans l'ordre des choses. Mais il a sauvé une femme qui était plus jeune que lui, qui était en voyage de noces. Et je le savais parce que j'avais vu ses pieds peints au henné, quand elle était allongée sur la plage. Donc je savais qu'elle, puis j'avais vu qu'elle avait une vingtaine d'années et qu'elle était sûrement en voyage de noces. Et du coup, quand Elvire m'a dit ça, elle devait avoir une dizaine d'années. Et je me suis dit, bah t'as raison, on va aller voir ce qu'elle est devenue. Et donc je me suis dit, bah je vais écrire à l'hôtel où c'est arrivé, où mon père est mort. Je leur ai écrit, j'ai eu une réponse immédiate. Il m'a dit, on va interroger tout notre personnel. Voilà, et vous pouvez tout à fait revenir, on va retrouver, etc. Donc j'étais assez étonnée. Et on a décidé de partir à Pondichéry. Je recontacte l'hôtel en leur disant c'était à une heure de Pondichéry, est-ce que vous avez des nouvelles, etc. Ils me disent oui, on a interrogé tout le personnel, on a retrouvé le manager de l'époque qui ne travaille plus ici, mais qui nous a donné des renseignements et qui aurait des informations sur cette femme. Venez nous voir. Je dis ok, très bien. Je trouve un chauffeur là-bas, ça passe comme ça, un petit tacos qui m'emmène. Je pars à 6h du matin, deux jours plus tard. Je suis arrivée donc dans cet hôtel que j'avais jamais revu. Je l'ai trouvé hyper moche. Je me suis dit, je vais quand même aller voir la plage. J'ai marché jusqu'à la plage. Elle est moche, cette plage. C'est très blanc, en fait, le soleil en Inde. Il n'y a pas ce truc des cocotiers, je ne sais pas, des images d'Épinal qu'on pourrait avoir de la plage magnifique. Ce n'est pas très beau. Donc voilà, je me retrouve sur la plage à 9h du matin. Il faisait très chaud déjà. Je regarde la plage, elle ne ressemble à rien. J'aperçois quand même le village de pêcheurs au loin. Bon, mais qui n'est pas un très joli village. Bon, et puis je voulais voir les managers, je retourne, donc j'étais quand même assez, je me disais quand même, c'est assez drôle. Et j'arrive voir les managers, ils me disent, en fait, tout le personnel ici a changé, on a interrogé plus de 100 personnes. Il me dit, par contre, on a longtemps interrogé le manager de l'époque, qui est la personne qui a emmené cette femme à l'hôpital, qui se souvient très bien de vous, mais qui ne veut pas vous rencontrer, mais vous pouvez lui écrire. Bon, bref, il me donne le nom de cet homme-là, et il me dit, faut que vous sachiez que cette femme nous a écrit. Elle a écrit à l'hôtel et elle a essayé de vous retrouver. Donc il me dit en attendant, si vous voulez trouver, peut-être que vous pourriez aller. Il faut savoir qu'on a eu le tsunami, donc on n'a plus aucune archive à l'hôtel. Parce que je dis, mais vous pourriez me donner le dossier d'arrivée de cette femme, puisque eux, ils dormaient dans cet hôtel. Nous, il n'y a rien qui prouve qu'on était là. Mais... Et je lui dis, j'ai besoin d'avoir des traces. De quand même, comment je peux prouver en fait que mon père a, il me dit ce que vous pourriez faire, ils sont partis tous les deux à l'hôpital en même temps, allez à l'hôpital parce que vous allez trouver les fiches d'entrée. Et on part, on va à l'hôpital, donc là je me retrouve la même entrée d'hôpital, rien n'a changé depuis que j'y étais il y a 27 ans. Je retrouve un mec, j'explique, on m'emmène de bureau en bureau, de bureau en bureau, de bureau en bureau, ça dure, j'attends, etc. Et puis on m'emmène devant la porte du grand pont de l'hôpital. J'arrive, il me dit, je suis en train de déjeuner, je vous reçois, c'est une drôle d'affaire, mais je lui raconte l'histoire. Et il me dit, ok, bon. Il prend son biryani dans son journal, hein, son papier journal, là. Il se lave les mains et il me dit, allez, on y va. Et on part aux archives tous les deux. Et on monte un escalier défoncé. On rentre dans une pièce. On ne pouvait pas pousser la porte. Il y avait un mètre de paquets d'archives. Mais des paquets d'archives, mais je sais pas, des paquets de 500 feuilles de 10 par 10, attachés avec de la petite ficelle, avec un autre petit truc. Et c'était des millions de trucs comme ça, dans une pièce énorme. Et donc... Tout le monde était assez bizarre, genre, faut faire hyper attention. Et puis, il poussait des espèces de cris bizarres et tout ça. Et tout à coup, j'entends hurler. Il m'attrape par le callback, il me fout dehors. Ils courent tous comme des débiles. Et en fait, je vois au loin un serpent surgir du truc. Et donc, ils ferment la porte, ils colmatent tous. Ils étaient morts de rire, comme ils peuvent être dans des situations complètement... dramatiques, débiles. Et ils me disent, when there is one... There is millions. Et il me disait, c'est des serpents mortels. Bon, voilà. Bon, et le mec me dit, comment vous allez faire? Je lui dis, j'ai le nom d'un gars qui était le manager de l'époque. Je vais aller le voir, c'est à Trichy, etc. Et c'est tout. Je suis rentrée le soir et j'ai commencé à écrire pour me souvenir, parce que j'ai quand même une mauvaise mémoire. Et voilà. Je vais à Trichy, je fais toute cette route, je vais voir cet ancien manager et il me donne ce nom. Et il me dit que lui, il a beaucoup communiqué avec elle. Donc je lui demande son adresse, etc. Et il veut rien me dire. Il garde un peu cette histoire pour lui. Il sait qu'elle a eu des enfants. Et puis il me dit qu'elle habite a priori dans les Émirats arabes, peut-être à Oman. Il n'est pas sûr, il veut absolument rien me dire. J'essaie d'en savoir plus, mais bon, j'en sais pas plus. Mais j'ai quand même un nom, quoi. Elle s'appelle Rita. Et donc, je note ça dans mes petits papiers, etc. Je rentre, donc, 5 heures de route retour. Hein. Et là, je cherche ce nom, le nom de famille, et je trouve sur Facebook un homme. Et je vais voir ses photos. Immédiatement, je reconnais le couple et je la reconnais, elle. Et donc là, c'est assez perturbant parce que tout à coup, elle existe. Tout à coup, elle a une vie qui a l'air assez belle. Il semble y avoir beaucoup d'argent et immédiatement, ça m'énerve. Ce qui est complètement débile, mais je me dis, ouais, non, c'est pas juste, quoi. Papa, il est mort pour une femme qui est blindée. Enfin, je vois pas pourquoi je me dis ça, mais en tous les cas, je me dis, bah, nous, quand même, on se démène avec François, mon frère, pour survivre dans une vie où c'est pas hyper simple, quoi. On n'a pas non plus hérité d'un pactole. Et elle fait sa petite vie tranquille, à l'autre bout du monde, elle a jamais donné de nouvelles, machin. Sauf que, au manager, je lui ai demandé si elle avait parlé de nous, si, parce que à l'hôtel, il m'avait quand même dit qu'elle nous avait écrit. Lui, il me dit que c'est faux, qu'elle n'a écrit qu'à lui, et qu'elle ne demandait pas des nouvelles de nous. Bon, je suis un peu déçue, et à la fois, je le sens pas très honnête dans tout ça. Bon, voilà. Et puis, c'est tout. Nous, on va sur la fin de notre séjour. Voilà, donc on rentre en France. Et je me retrouve avec cette histoire. Notre vie reprend, etc., etc. Et puis, j'ai laissé un peu tomber parce que j'ai cherché un peu sur Internet. Et autant les recherches sur en Inde j'ai adoré. Autant les recherches sur Internet, vite j'ai laissé tomber. Ma vie parisienne m'a repris. Le quotidien, les enfants, bref. Et puis, un jour, j'ai vraiment eu un déclic avec une copine qui m'a dit « Mais il cherche !» Et bref, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé le nom d'une société à Oman, avec le nom de famille. J'ai appelé et on m'a dit « Rita, bien sûr, je vous donne son numéro et on me donne un numéro de portable. » Et là, ça devenait beaucoup trop proche. Et je me suis dit « Mais je l'appelle !» Après, je me suis dit « Non, mais c'est trop violent, appeler 30 ans après... » Bon, et puis j'ai fini par envoyer un SMS, je trouvais ça moins intrusif, et puis elle n'était pas obligée de répondre, et puis bon, voilà. Immédiatement, elle m'a répondu. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, elle m'a dit « Les souvenirs sont très présents, je me souviens très bien de vous, et c'est tout. » Et là, je lui ai dit, elle m'a dit « Je veux absolument qu'on parle, est-ce qu'on peut... » Et je lui ai dit « Moi, je ne suis pas très à l'aise par téléphone, est-ce qu'on peut s'écrire ?» Elle m'a donné son mail. Et là, a commencé une longue... un long échange avec elle. Et c'était assez étonnant. C'est-à-dire qu'on s'est écrit à peu près 2-3 fois par jour pendant un mois. Ça prenait toutes mes journées, je ne pensais qu'à ça. Je pense qu'elle aussi, elle était extrêmement inquiète et excitée dans les messages qu'elle m'envoyait. Et puis surtout, moi, ce qui m'a vachement touchée dans ce qu'elle m'a écrit, elle m'a dit, quand on s'est vu à l'aéroport, personne ne m'avait dit que ton père était mort. Et puis, petit à petit, on a beaucoup discuté. Sont arrivés les attentats du 13 novembre. Elle m'a tout de suite envoyé des messages, très inquiète. Et elle m'a dit, en fait, il faut qu'on se rencontre. Tout ça fait qu'il faut qu'on se voit. Et je sais qu'ils n'étaient pas d'accord dans sa famille, qu'elle se déplace. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais à Bombay en février prochain. Si tu veux, on se retrouve. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle mariait son fils aîné et qu'il fallait que je vienne au mariage de son fils aîné l'année d'après. Elle voulait se garantir de ça. Après, on pourrait parler d'autre chose. Moi, je lui ai dit immédiatement oui. Moi, j'étais trop contente. Et on y est allé. Et en fait, Rita, dans les mails, elle, à la fin de nos échanges, elle m'a dit « Mais t'attends quoi de moi ?» Et je lui ai dit, en fait, j'attends que tu sois la preuve vivante de ce que je raconte à mes enfants, pour qui cette histoire, pour laquelle ils n'ont aucun affect, on n'aime pas nos morts inconnus, c'est faux, quoi. Et Rita, je lui ai dit, en fait, je voudrais que tu sois la preuve vivante que ce que je raconte, c'est vrai, parce qu'il n'y a personne d'autre. Et elle m'a dit, ok, moi je leur dirai. Et donc, quand on est arrivé une semaine avant le mariage, on a dîné avec Elvire, et c'était hyper émouvant. parce que Rita, elle a pris Elvire, mais il n'y a jamais de pathos, je ne sais pas. Ses larmes coulaient, mais elle ne pleure pas. Et elle disait à Elvire, voilà, ton grand-père m'a sauvé la vie. Et ta mère, elle m'a cherchée. Et elle m'a trouvée. Et c'est marrant parce que je n'avais pas vu tout cet acharnement. Je me suis dit, ouais, elle a raison, j'ai quand même fait tout ça pour ça. Parce que ce n'est pas simple du tout pour moi d'élever mes enfants. Et du coup, je sentais que là, il y avait quand même un truc qui se... J'ai senti comme une plaie qui se refermait. Après, t'as une grosse croûte, mais c'est fermé, quoi. Il n'y a plus cette béance de... du vide, enfin, du truc qui est hyper angoissant, quoi. Que Rita, elle, tout à coup... Alors, peut-être c'est à moi que ça a fait ça. Hein. Peut-être que je me suis trompée en me disant que je faisais ça pour ma fille. Oui, j'ai eu l'impression, en tous les cas, par rapport à mes enfants, d'avoir réussi à boucler cette histoire, de plus avoir cette béance sur j'avais laissé quand même un trou, enfin un truc pas très clair, je pense que là-dessus c'est fermé. C'est, il y a cette croûte qui est assez jolie, je sais pas, mais comme quand t'es petit, t'as ta croûte que tu grattes, mais au final en dessous ça saigne plus, quoi. Et puis d'avoir tout écrit, que pour une fois les gens puissent lire ce qu'ils ont jamais voulu entendre, parce que tu racontes souvent mais on t'arrête là où on veut. On n'entend que ce qu'on veut. Et mes enfants, ils doivent savoir d'où ils viennent. Et en fait, ce n'est pas une histoire honteuse, comme on a essayé de me le construire autour de moi, quoi. Et j'ai accepté ça souvent par flemme. Et en fait, ce n'est pas vrai. J'ai eu des parents peu de temps. Bon, enfin, déjà 15 ans, c'est pas mal. Hein. Moi, quand on me dit c'est horrible ce qui t'est arrivé, il m'a rien d'horrible d'arrive. Hein. Il m'est arrivé une histoire... assez étrange, mais je veux dire, j'ai été aimée. Hein. Et voilà, et après, Rita, maintenant, c'est chouette, on a une correspondance vraiment comme une amie, on s'écrit très très régulièrement. Là, elle vient de m'apprendre qu'elle allait être grand-mère, et voilà, on est très confidente. Et chaque fois qu'on va en Inde, elle s'arrange pour qu'on y soit et qu'on se retrouve, et ça, c'est super. C'était Rita, Sauvée des eaux, un reportage de Stéphanie Thomas, réalisé par Alexandra Candy-Longuet. Merci à Alice Charbin, qui est l'auteur avec Sophie Legoubin-Copey d'une bande dessinée, récit dessiné sur son histoire intitulée également Rita, Sauvée des eaux, aux éditions Delcourt. Mélissa Fous est l'attachée de production des Pieds sur Terre et François Bréus, c'est notre stagiaire.